VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bienvenue dans cette édition du lundi 1er mars 2021. Eric Manela qui à la présentation. Voici d'abord les titres. Au Tchad, le principal opposant Saleh Kezabo se retire de la présidentielle. En RDC, trois nouveaux cas d'Ebola ont été confirmés dans l'est du pays. L'ancien président français Nicolas Sarkozy condamné à 3 ans de prison, dont un ferme pour corruption. Et le négociateur américain pour l'Afghanistan rencontre le président afghan à Kaboul. Après le journal, ce sera l'économie et l'espoir. Le principal opposant au Tchad, Saleh Kezabo, a retiré lundi sa candidature de la présidentielle du 11 avril en accusant le président Idriss Déby Itno, grand favori pour un sixième mandat, d'intimider ses rivaux pour l'usage de la force. Le point avec André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
Saleh Kezabo, arrivé deuxième à la présidentielle de 2011, informe que cette attaque musculée des forces du troisième degré au domicile de Yahya Jello Djirou impacte négativement sur le processus électoral en cours et donne une idée sur le climat d'insécurité qui engendra la campagne électorale pour les candidats qui vont affronter celui du parti au pouvoir. Il condamne cet acte odieux qui a fait couler le sang des Tchadiens et décide de se retirer de la course.
L'incursion des forces du troisième degré au domicile de M. Yahya Jello impacte négativement sur le processus électoral en cours et donne une idée sur le climat d'insécurité qui entachera certainement la campagne électorale pour les candidats qui vont affronter Idriss Déby Itno. En conséquence, l'UNDR décide de se retirer du processus électoral pour ne pas avoir à servir de caution à la mascarade qui se prépare sur une grande échelle.
Pour l'Alliance Victoire, une coalition de l'opposition qui a présenté un candidat unique à cette élection, rien ne peut justifier une telle barbarie et exhorte tous les candidats de l'opposition démocratique déclarés à la présidentielle du 11 avril 2021 à se concerter en urgence pour examiner la situation en cours. À l'heure actuelle, la situation est toujours confuse et les autorités de N'Djamena évoquent des mesures sécuritaires pour couper les réseaux de téléphones mobiles et Internet dans la ville de N'Djamena. André Kodmajingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
L'ancien Premier ministre et figure de l'opposition au Niger, Ama Amadou, est toujours en garde à vue ce lundi selon ses proches. Il est accusé par le pouvoir d'être responsable des troubles après l'élection présidentielle. L'accès à Internet est toujours coupé dans tout le pays. Le parti du député et opposant sénégalais Ousmane Sanko, visé par une plainte pour viol, a dénoncé lundi l'arrestation de près de 80 de ses partisans, estimant qu'ils sont les otages politiques du président Macky Sall. Le député de 46 ans nie ces accusations et crie au complot pour l'écarter de la prochaine présidentielle en 2024. Vendredi, l'Assemblée nationale a levé l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, ouvrant la voie à une convocation par la justice à laquelle il a déjà indiqué qu'il ne répondrait pas. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont été lundi les premiers à lancer une campagne de vaccination contre le Covid-19 grâce au dispositif COVAX. À Accra, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a reçu une injection du vaccin AstraZeneca Oxford. À Abidjan, Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence ivoirienne, s'est fait vacciner dans le quartier populaire de Treichville. Des négociations sont en cours au Nigeria pour obtenir la libération de 317 adolescentes enlevées vendredi dans leur pensionnat situé dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. Il s'agit de la quatrième attaque d'école en moins de 3 mois dans cette région du Nigeria, où des groupes criminels appelés bandits multiplient les vols de bétail à grande échelle et pratiquent les enlèvements contre rançon depuis plus de 10 ans. L'armée congolaise a annoncé lundi avoir tué 13 miliciens et perdu 3 soldats en 3 jours d'offensive contre un groupe armé actif en Ituri, dans le nord-est de la RDC. L'offensive des forces armées de la RDC lancée vendredi a ciblé des fiefs du groupe armé Forces patriotiques et intégrationnistes du Congo actifs dans le territoire d'Irumu en Ituri. Toujours en RDC, 3 nouveaux cas d'Ebola ont été confirmés dans l'est du pays, portant à 11 le nombre de cas depuis que les autorités ont déclaré une résurgence du virus le mois dernier. Le point avec Abdelrahman Diaye.
Les nouveaux cas ont été détectés dans la zone sanitaire de Butembo, selon le ministre de la Santé provinciale du Nord Kivu, Eugène Zanzou Salita. 4 personnes sont décédées et 2 sont guéries parmi les 11 cas, a déclaré le ministre. La semaine dernière, M. Zanzou avait fustigé le fait que certaines familles refusent catégoriquement que leurs habitations soient désinfectées, tout comme des enterrements dignes et sécurisés. La 10e épidémie, déclarée le 1er août 2018 dans cette région, n'a été éradiquée que le 25 juin 2020 à cause de l'insécurité créée par des groupes armés et la résistance des populations aux mesures mises en place pour lutter contre la maladie. Avec plus de 2200 morts enregistrées, cette dernière épidémie de fièvre hémorragique est considérée comme la plus grave en République démocratique du Congo depuis son apparition en 1976.
Le recours contre l'ex-président sud-africain Jacob Zuma pour outrage déposé par la commission chargée d'enquêter sur la corruption d'État lorsqu'il était au pouvoir sera examiné lors d'une audience virtuelle le 25 mars, a annoncé lundi la Cour constitutionnelle. Le Premier ministre libyen désigné Abdelhamid Beiba a défendu lundi l'intégrité du processus de désignation du nouvel exécutif. Faire réponse à des soupçons de corruption qui pèsent sur le dialogue interlibyen selon des experts de l'ONU. Monsieur Beiba, qui doit former un nouveau gouvernement d'union nationale et gagner la confiance du Parlement, a insisté sur l'intégrité du processus à travers lequel le nouvel exécutif a été désigné en toute transparence et que les Libyens ont pu suivre à la télévision et dans différents médias selon un communiqué publié par son cabinet.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été condamné lundi à 3 ans de prison dans un enferme pour corruption et trafic d'influence. Cette décision sans précédent sous la 5e République française a été accueillie avec stupéfaction et tristesse par sa famille politique de droite. Le point avec Mohamedou Oumfa.
Le tribunal correctionnel de Paris a estimé qu'un acte de corruption a été conclu entre Nicolas Sarkozy, son avocat Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Alibert. Les deux co-accusés ont été condamnés à la même peine avec 5 ans d'interdiction professionnelle pour son avocat. Ils ont également été reconnus coupables de violation du secret professionnel. Cette affaire, dite des écoutes, remonte à 2014, dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Les juges découvrent que Nicolas Sarkozy utilise une ligne téléphonique secrète ouverte sous l'alias de Paul Bismuth pour communiquer avec son avocat. Le magistrat Gilbert Azibert transmet via l'avocat de Sarkozy des informations couvertes par le secret pour tenter d'influer sur un pouvoir en cassation formé par M. Sarkozy. En échange, ce dernier a accepté d'appuyer la candidature du magistrat pour un poste à Monaco. Malgré sa condamnation, Nicolas Sarkozy, âgé de 66 ans, n'ira pas en prison, aucun mandat de dépôt n'ayant été requis par le tribunal. Sarkozy a écouté impassible le prononcé de sa peine. Il n'a fait aucune déclaration à la sortie de la salle, mais Christian Jacob, le patron de la droite, a dénoncé une peine disproportionnée et un acharnement judiciaire.
Le premier ambassadeur émirati en Israël a pris ses fonctions lundi, se disant fier et honoré d'œuvrer à développer les relations entre les deux pays quelques mois après leur normalisation. En Afghanistan, l'émissaire américain Zalmay Khalilzad a rencontré ce lundi à Kaboul le président afghan Ashraf Ghani pour tenter de remettre sur les rails le processus de paix menacé par les violences et l'incertitude entourant le retrait des forces étrangères. Claire Morin-Zibourg.
Les deux hommes ont évoqué les étapes à venir du processus de paix et souligné les efforts supplémentaires à accomplir pour l'accélérer, selon une porte-parole de la présidence afghane. Il s'agit de la première visite de l'émissaire américain depuis qu'il a été confirmé dans ses fonctions par le président Joe Biden. Nommé par l'ex-président Donald Trump, M. Khalilzad a été l'architecte de l'accord entre Washington et les talibans en février 2020 à Doha et qui a permis l'ouverture de pourparlers entre les insurgés et le gouvernement afghan. Les négociations sont au point mort. L'administration Biden a ordonné un réexamen de l'accord de Doha qui conditionne le retrait des troupes américaines à des garanties sécuritaires de la part des talibans.
L'ONU a exhorté lundi les donateurs internationaux à assurer une aide de 3,85 milliards de dollars pour le Yémen afin d'empêcher la famine d'engloutir ce pays dévasté par la guerre et où l'enfance est désormais un enfer. Plus de 100 gouvernements et donateurs particuliers participent à une réunion virtuelle co-organisée par la Suède et la Suisse pour le Yémen. Les violences se sont intensifiées à Marib, dans le nord de ce pays très pauvre de la péninsule arabique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minuteco avec John Lyndon.
La nouvelle chef de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a appelé lundi à débloquer les négociations sur les aides à la pêche au premier jour d'un mandat à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons vraiment le sentiment que la surpêche, la surcapacité et la pêche illégale sont des facteurs qui nuisent à la durabilité. C'est pourquoi il est important que nous achevions les négociations le plus rapidement possible, a-t-elle déclaré. La dette publique du Congo a atteint 100% du PIB en 2020, selon le Fonds monétaire international. Elle restait soutenable d'après l'institution, qui table sur une baisse en 2021 pour se situer autour des 87% du PIB. Dépendant du pétrole, qui représente plus de 80% des revenus, le Congo connaît une conjoncture difficile avec la dépréciation des cours sur le marché. Air Sénégal SA se dote d'un deuxième avion de type Airbus A321. L'appareil, configuré pour accueillir 165 passagers, a été réceptionné à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar en provenance de Montpellier.
Et sans transition, nous passons à la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. On connaîtra ce soir les qualifiés pour la finale de la CAN des moins de 20 ans qui se déroule en Mauritanie. Triple vainqueur de la compétition, le Ghana affronte la Gambie au stade olympique de Nouakchott en demi-finale. La seconde demi-finale met aux prises l'Ouganda et la Tunisie, deux pays qui participent à cette catégorie de la CAN pour la première fois de leur histoire. En République démocratique du Congo, on a joué dimanche pour le compte du championnat national. Sanga Balende a lourdement chuté, battu 4-1 par Maniema Union. L'AS Simba de Kolwezi a pris l'ascendant sur Renaissance du Congo, 3-1. Le duel au sommet entre Mazembe et Lupopo n'a accouché que d'un nul blanc, un match qui aura permis au Corbeau de préparer le duel de la Ligue des champions de la CAF face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns de Kinshasa. Le reportage de Valdo Simoyamba.
Trop physique, excès d'engagement, assorti d'un jeu décousu de part et d'autre, le derby louchois qui a opposé Mazembe à Lupopo n'a pas été à la hauteur des attentes. Un match sans but qui reflète la physionomie de la rencontre, estime Bertin Makou, l'entraîneur des Cheminots.
Il y avait de l'envie de part et d'autre de pouvoir faire la différence, avec plein de détermination. Ça a fait que le match soit physique, chacune des équipes n'a pas laissé beaucoup d'espace à l'autre à pouvoir exploiter.
Une physionomie du match qui a contraint l'arbitre à ne rien laisser de part et d'autre, avec conséquence sur le jeu, s'est plaint l'entraîneur adjoint du tout-puissant Gleber Mazembe, Isaac Sungo.
Moi, on a vécu un arbitrage là qui a gâché la fête. La fête n'était pas au rendez-vous. Il y avait trop de brutalité. Ça, c'est quoi du foot?
Ces nuls blancs ne font pas les affaires des Mazembe. Le club louchois reste sur deux matchs, toutes compétitions confondues. Sans le moindre but, sa ligne offensive inquiète, surtout à l'approche de son match contre Mamelodi Sundowns en Ligue des champions de la CAF.
Même si on a fait un match, mais ça nous menait de tirer des leçons pour préparer et nous sommes obligés de gagner le match de Mamelodi Sundowns pour nous relancer dans la course.
Duel à suivre, c'est 6 mars, Kinshasa, Val de Simoyamba, VOA Afrique.
En Espagne, la police catalane a annoncé avoir procédé à plusieurs arrestations après ses perquisitions au siège du FC Barcelone. Selon la radio Cadena Ser, l'ancien président du club, Josep Maria Bartomeu, fait partie des cibles. La Cadena Ser assure que le directeur général en place, Oscar Grau, et le directeur juridique Roman Gomez Ponti ont été interpellés et selon les médias espagnols, les perquisitions menées au siège du FC Barcelone sont liées à l'enquête sur le Barça Gate, une affaire qui a fait surface il y a un an. Le 17 février 2020, en effet, le FC Barcelone a démenti être à l'origine d'une campagne de calomnie visant des figures du club sur les réseaux sociaux dans le but d'améliorer l'image de Joseph Maria Bartomeu, qui a démissionné le 27 octobre dernier. Cette opération policière intervient à 6 jours des élections pour la présidence du club prévue dimanche, où les socios, entendez supporters actionnaires, seront appelés à choisir entre Juan Laporta, Tony Fexa et Victor Font.
C'était les sports de Yacouba Ouedraogo. C'est le monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com. De retour avec vous, Eric Maniakiza. Maintenant, les dossiers du jour. Au Burkina Faso, les autorités ont libéré une vingtaine de terroristes dans le cadre des négociations avec Yad Agrali. C'est la révélation faite par le journal d'investigation L'Événement. Les autorités n'ont pas réagi, mais l'affaire suscite déjà des réactions dans le pays, où les autorités ont régulièrement insisté qu'elles ne négocieraient jamais avec les terroristes. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Au moins une vingtaine de présumés terroristes ont été libérés en 2020 par le gouvernement burkinabé dans le cadre de négociations pour la paix avec le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le président Kabore a insisté à plusieurs reprises sur sa détermination à ne pas négocier avec les groupes armés, d'où l'incompréhension au sein de l'opinion suite à cette information du journal L'Événement.
C'est avec consternation que nous avons appris la libération de certains terroristes par le gouvernement burkinabé à la suite d'une négociation.
Victorien Ouedraogo, étudiant.
Ce texte se veut contraire aux propos du président du Faso qui disait ne pas négocier avec les terroristes. Il est du devoir de l'État de garantir l'intégrité du territoire tout en usant de son autorité, en ne cédant aucune portion de son territoire à un quiconque groupe d'individus. Pour moi, négocier n'est pas une bonne solution pour lutter contre le terrorisme, mais il faut mettre l'accent sur les renseignements militaires et l'équipement.
Ilias Nyumu pense qu'il s'agit d'un revirement qui soulève des questions.
Je vois qu'il a trahi un peu sa conviction de départ. Mais s'il reconnaît que c'est un peu difficile de traiter sans négociation, c'est très bien. C'est bien de se faire de sa part. Mais désormais, c'est mieux de travailler pour éviter les fuites. Dans un état où il a dit haut et fort devant tout le monde, nous l'avons tous écouté, il a dit qu'on ne peut pas négocier avec le terrorisme. Les agents sont là. Il a même eu à dire que le terroriste doit aller négocier avec Blaise Compaoré, que lui n'est pas Blaise Compaoré.
Du côté des analystes et autres observateurs, cette négociation avec des terroristes permettra d'amener une certaine accalmie dans le pays. Mamoudou Savadogo, expert en sécurité, soutient que la question de la négociation était une étape inéluctable.
Cette tentative de négociation, c'est une prise de contact, ce qui permet d'identifier les groupes et aussi de les catégoriser. On a affaire à des insurrections armées locales, c'est-à-dire des gens qui posent des conditions acceptables pour lesquelles on peut faire des compromis. Ça peut contribuer à diminuer la violence sur une partie du territoire parce que ce n'est pas avec tous les groupes qu'on a négocié.
Il y a quelques jours, le président français Emmanuel Macron avait indiqué que son homologue Kabore avait reconnu lors du dernier sommet du G5 à N'Djamena avoir tenu un dialogue politique avec les effecteurs de groupes terroristes à Djibo, dans le Sahel burkinabé. Le gouvernement burkinabé, à travers son porte-parole, a nié toute implication de l'État dans ces négociations. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Nigeria, les enlèvements contre le paiement de rançon sont devenus une activité courante dans le pays. Ce dimanche encore, des parents attendaient des nouvelles de la libération des centaines d'élèves enlevés dans des internats de Zangebe dans l'état de Zamfara. En quelques années, cette pratique a pris de l'importance. Le business des enlèvements au Nigeria avec Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
La multiplication récente des attaques a suscité des inquiétudes quant à la montée de la violence de la part des gangs et groupes armés qui visent désormais des écoles. Ces attaques et enlèvements contre le versement des rançons sont surtout présents dans les États du Nord. Récemment, 42 personnes, dont 27 élèves, ont été enlevées par un gang armé qui a pris d'assaut l'école secondaire gouvernementale dans le district de Gagara de l'État. Les élèves enlevés et le personnel ont retrouvé leur liberté et ont été reçus par le gouverneur de l'État de Nadia après avoir passé au moins entre 9 à 10 jours en captivité. On parle de plusieurs centaines le nombre de victimes d'attaques ou d'enlèvements dans cette partie du pays. Hawa Abdul Salam est avocate. Elle a été déjà enlevée et raconte son expérience entre les mains de ses ravisseurs.
C'était une terrible expérience ce jour-là. On ne s'attendait pas à une telle situation. Nous revenions d'une cérémonie de mariage de la cousine de notre sœur pour rejoindre Mina dans un minibus. En route, juste au niveau d'un village appelé Tungu, nous avions vu des hommes armés inconnus. Ils ont commencé à tirer vers nous et finalement, ils ont obligé notre chauffeur à arrêter le véhicule.
Dans plusieurs autres États du Nord, les autorités locales sont conscientes de la gravité de la situation. Le président Buhari a remplacé ses chefs militaires de longue date ce mois-ci dans un contexte d'aggravation de la violence au Nigeria. Ahmed Ibrahim Matani, secrétaire général du gouvernorat de l'État de Niger, l'un des États ayant de vastes étendues de territoire où les criminels profitent des grandes forêts pour mener leurs activités.
Nous avons des problèmes de sécurité dans notre État et cela s'explique notamment par le fait que notre État représente 10% du territoire national. Une grande partie des endroits de notre territoire est constituée de forêts, donc les criminels prennent ces forêts comme leur sanctuaire et opèrent à partir de là.
Au sein de la population, on se pose beaucoup de questions sur l'incapacité du gouvernement du président Buhari, un ancien militaire, à endiguer le phénomène des enlèvements. L'expert en sécurité, Kabiru Adamu, pense que c'est un défi international.
C'est un phénomène international. Apparemment, partout dans le monde où vous avez un conflit et la détérioration des conditions de sécurité, comme c'est le cas maintenant au Nigeria, les écoles sont ciblées. En Afghanistan, au Pakistan, au Congo et dans plusieurs autres pays du monde, vous voyez que ce sont les écoles qui sont visées.
La violence et l'insécurité ont aggravé les défis économiques auxquels sont confrontés les citoyens du premier pays exportateur du pétrole d'Afrique qui peinent à faire face à une baisse des revenus due à une chute des prix du brut en plus de l'effet de la pandémie Covid-19. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
On l'évoquait en première partie de ce journal, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné ce lundi à 3 ans de prison, dont un ferme, pour corruption et trafic d'influence. Président de 2007 à 2012, Monsieur Sarkozy, âgé de 66 ans, n'ira cependant pas en prison, aucun mandat de dépôt n'ayant été requis par le tribunal. Cette condamnation intervient alors que Monsieur Sarkozy doit faire face à nouveau à des juges dès le 17 mars dans l'affaire Pygmalion sur les frais de sa campagne présidentielle de 2012. John Lindon a joint à Paris Abdelaziz Mondé, journaliste et consultant en relations internationales.
Oui, comme on peut l'imaginer, c'est un vrai séisme médiatique. La décision était attendue déjà dès les premières heures de la matinée. Et tous les médias, des chaînes d'information en continu, ont été sur le qui-vive. Toute la presse d'information générale, la presse politique, tout le landerneau politique attendait cette décision parce que, comme on l'imaginait, l'enjeu était de savoir si oui ou non un deuxième président de la République allait être condamné à de la prison ferme ou un sursis après la condamnation de Jacques Chirac.
Il est condamné pour corruption et trafic d'influence. Pour ceux de nos auditeurs qui n'ont pas suivi ce feuilleton, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus?
Oui, il s'agit d'une affaire qui est rocambolesque puisque c'est dans le cadre d'une enquête qui impliquait Nicolas Sarkozy dans la question du financement libyen de sa campagne de 2007 que les enquêteurs ont découvert une ligne téléphonique secrète qui était utilisée par Nicolas Sarkozy pour communiquer avec son avocat Thierry Herzog. Et dans les investigations donc de la police, on a découvert que Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog discutaient d'une possibilité pour Nicolas Sarkozy d'accorder un avantage sous la forme d'un poste à un haut magistrat, Gilbert Azibert, qui était juge à la Cour de cassation, qui sollicitait un poste à Monaco. Et donc Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog discutant non de cela, les juges qui enquêtaient, les enquêteurs du parquet national financier qui enquêtait sur une une affaire concernant le financement lié à une enquête dans laquelle Nicolas Sarkozy est mis en examen, eh bien, ont découvert cette ligne-là. Et donc, cette affaire qui concerne des faits de corruption et de trafic d'influence, dont dit l'affaire Paul Bismuth, est une des 10 affaires dans lesquelles Nicolas Sarkozy a été impliqué ces 10 dernières années, pour laquelle, in fine, il a été donc condamné ce matin, enfin, ce midi à Paris, donc entre 13h et 14h, au moment où le tribunal a communiqué sa décision, où il a été condamné donc à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis et une ferme.
On note cependant qu'aucun mandat de dépôt n'a été émis à son encontre. Ça veut dire qu'il n'ira pas en prison?
Oui, ça veut dire que dans l'immédiat, il n'ira pas en prison. Le premier appel qui a été interjeté a été celui de son avocat Thierry Herzog, qui a été lourdement condamné, qui en plus de la peine de sursis et de la peine ferme, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les 3 années de sursis, dont 2 de sursis et 1 année ferme, a été condamné à 5 ans d'interdiction de la pratique de la profession d'avocat. Pour un ancien chef d'État, je vois, pour le rappeler, difficilement comment Nicolas Sarkozy va se déployer de façon aussi énergique, de façon aussi sereine qu'il en avait l'habitude.
Abdelaziz Moundé, journaliste et consultant en relations internationales, joint à Paris.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Lors de la conférence d'action politique des conservateurs en Floride dimanche, Donald Trump a critiqué la politique de son successeur Joe Biden et a réaffirmé le leadership du parti républicain. Dans son premier discours au public depuis qu'il a quitté ses fonctions, l'ancien président a laissé entendre qu'il pourrait se présenter à nouveau en 2024. Un reportage de Patsy Widakuswara, correspondante de VOA à la Maison-Blanche, relaté par Nathalie Barge.
Lors de la conférence d'action politique des conservateurs en Floride dimanche, les participants se sont empressés de témoigner de leur soutien à Donald Trump. Henrietta Amé, militante pro-Trump.
Je suis ici pour soutenir le président Trump jusqu'au bout. Il est le meilleur président que je connaisse.
L'événement annuel, une plateforme pour mettre en évidence les idées conservatrices, était consacré cette année à Donald Trump, qui n'a pas manqué de critiquer son successeur, le président Joe Biden.
Joe Biden a connu le premier mois le plus désastreux de tous les présidents de l'histoire moderne, c'est vrai. L'administration Biden a déjà prouvé qu'elle était anti-emploi, anti-famille, anti-frontières, anti-énergie, anti-femmes et anti-science.
Joe Biden a passé le dimanche à l'église avec sa famille dans le Delaware. La Maison-Blanche n'a pas voulu s'étendre sur ce rassemblement qui a ramené Donald Trump sur la scène politique. James Saki, attaché de presse de la Maison-Blanche.
Nous n'allons pas passer trop de temps ici à nous concentrer ou à parler du président Trump, l'ancien président Trump.
Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait se présenter à nouveau en 2024 et a clairement indiqué qu'il a l'intention de garder le contrôle sur le parti, bien qu'il soit critiqué par certains républicains pour les émeutes de ses partisans au Capitole le 6 janvier.
Il n'arrêtait pas de dire que j'allais lancer un nouveau parti. Nous avons le parti républicain. Il va s'unir et être plus fort que jamais. Je ne lance pas un nouveau parti.
Trump a blâmé certains législateurs républicains qu'il juge déloyaux, dont ceux qui ont voté pour le destituer. Il a continué à affirmer qu'il avait remporté les élections. Une telle position risque d'aggraver les divisions au sein du parti et d'éloigner les modérés, selon Olivia Troy, directrice du projet républicain de responsabilité.
Ils cherchent à trouver des candidats plus représentatifs afin de travailler pour ce qui est bon pour l'Amérique, n'est-ce pas? Faire ce qu'il faut pour le pays, travailler avec les démocrates, coopérer au lieu de cette division et de cette haine toxique qui s'est installée.
Donald Trump a été acquitté lors du second procès au Sénat intenté par les démocrates, mais n'en reste pas moins dans le collimateur des procureurs de Manhattan qui ont saisi des dossiers fiscaux de l'ancien président après une bataille judiciaire de 18 mois.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique, Lionel Lunamira Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnon et Joselle Morissin. À la présentation, c'était Eric Manirakiza. Merci d'avoir suivi le Monde Aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet veroafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt. Au revoir.